Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode consacré à Charles Darwin, le jeune naturaliste anglais s'est embarqué à bord du Beagle avec le capitaine Robert Fitzroy pour une expédition scientifique en Amérique latine. Son observation de la nature remet en cause sa vision du monde organisée par Dieu. Sa théorie de l'évolution, selon laquelle les espèces évoluent dans le temps pour s'adapter à leur milieu, est en germe, mais encore à l'état embryonnaire quand une nouvelle découverte va venir bousculer ses certitudes. Épisode 2. La nature ne connaît pas le progrès. Nous sommes à l'automne 1832, près des côtes argentines. Comme à son habitude, pendant les escales, Darwin explore les terres. Dans les sédiments, il découvre les ossements d'un très gros animal, une articulation avec un genou gigantesque. Et s'il y a un genou, c'est qu'il doit s'agir d'un mammifère. Depuis quelques décennies, les naturalistes font de l'anatomie comparée et ont constaté des choses étonnantes. La nageoire d'une baleine, par exemple, est formée des mêmes os que ceux de la main d'un humain avec 5 doigts. Des animaux très différents peuvent donc avoir des liens de parenté. Pour en savoir plus, Darwin envoie les ossements à Londres à Richard Owen, un jeune zoologiste. Les restes de l'animal découvert par Darwin sont probablement ceux d'un dinosaure. Pour lui, c'est un animal disparu. Les hommes de son temps expliquent aisément la disparition de certaines espèces. Celles qui ne sont pas montées sur l'arche de Noé se sont éteintes. C'est simple, mais pas suffisant pour Darwin qui pressent une autre réalité. Peut-être qu'au lieu de disparaître, les animaux évoluent, mais c'est encore un peu tôt pour le formuler clairement. Une fois passée l'Argentine, la Terre de Feu se profile à l'extrême sud de l'Amérique latine. Il est temps pour Fitzroy de ramener ses Fuégiens chez eux au bout du monde. Pour Darwin, la découverte d'un peuple primitif est un choc. Ces gens se battent entre eux et luttent contre leur environnement. Les marins préfèrent rester à distance et les 3 Fuégiens passés par Londres ne sont pas plus rassurés qu'eux, avec leurs chapeaux de forme, leurs robes à paniers et leur vaisselle en porcelaine. Ils ont l'air ridicules au milieu de leurs proches qu'ils ont quittés il y a plusieurs années. En réalité, ils sont mal accueillis par leurs anciens amis et n'ont aucune envie de rester. Mais Fitzroy veut qu'ils évangélisent le bout du monde. Il refuse de voir que cette méthode d'acculturation est vouée à l'échec. Pour Darwin, les Fuégiens ont des comportements proches de ceux des animaux. Ce n'est pas un jugement de valeur qu'il est en train d'émettre. Ça signifie pour lui que les êtres humains, en général, sont proches des animaux et que c'est évident quand ils ne sont pas civilisés comme en Europe. En effet, il est très loin de croire qu'il y a des races. Il semble plutôt penser que certains groupes d'humains se sont mieux adaptés que d'autres à leur milieu. Ces idées tournent dans la tête de Darwin pendant des années. Il commence à croire qu'il y a une véritable arrogance à mettre l'humain au-dessus de toutes les créations. Timidement, il échafaude l'idée selon laquelle l'homme et les primates auraient peut-être un ancêtre commun. Et non, il n'a jamais dit que l'homme descendait du singe. On a beaucoup simplifié et falsifié sa pensée en disant ça. Et aujourd'hui, on sait grâce à la science que Darwin avait raison. Nous, les êtres humains, nous partageons 99% de nos gènes avec des chimpanzés. Il y a 7 millions d'années, on avait bien un ancêtre commun. Évidemment, ça Darwin le comprend, mais il ne peut pas le prouver. Il est en train de rompre complètement avec l'homme comme création divine et parfaite de Dieu. Au Chili, Darwin découvre dans les montagnes des restes de coquillages fossilisés. C'est un nouveau séisme dans son esprit. Ça veut dire que ces falaises ont été un jour très lointain sous la mer. Ça semble incompatible avec la théorie de la création de la Terre 4004 ans avant Jésus-Christ, parce que la montagne n'aurait jamais eu assez de temps pour se soulever, ni les coquillages pour se fossiliser. Il sent que la Terre est une sorte de croûte sur un fluide qui peut bouger. Il l'a ressenti puissamment pendant un tremblement de terre lors d'une escale. Le niveau du sol peut donc monter ou descendre. Il en est sûr, mais il ne sait pas comment l'expliquer. Le Beagle poursuit son voyage vers les îles Galapagos, à l'ouest de l'équateur, dans le Pacifique. Darwin découvre ces lieux qu'il qualifie d'infernaux. Il y récolte des tas de plantes et d'animaux et fait des expériences. Il jette à plusieurs reprises un iguane dans la mer pour chronométrer le temps que la bête met à remonter et tester ses capacités. Des pinsons attirent aussi son attention. Il en capture sur toutes les îles et remarque des différences entre eux, comme s'il y avait des variations au sein d'une même espèce. Certains ont un gros bec et sont frugivores, d'autres un bec fin et sont insectivores. Là encore, il en est au stade des intuitions. Il sent que l'idée d'adaptation au milieu sous-tend les différences entre les oiseaux, mais il n'est pas encore assez précis dans sa pensée pour faire un relevé exhaustif de leurs caractéristiques et des lieux où il les a capturés. Il les envoie presque en vrac à Londres après les avoir naturalisés. Ils serviront a posteriori à démontrer que les pinsons sont des variations de la même espèce adaptées aux caractéristiques de l'île sur laquelle ils habitent. Au fur et à mesure de ces observations, la question de l'origine des espèces devient de plus en plus entêtante. L'idée de la sélection naturelle fait son chemin. Les espèces les mieux adaptées à leur milieu survivent, les autres meurent. Les individus les plus forts se reproduisent mieux, les autres ne transmettent pas leurs gènes, ou alors beaucoup moins par la reproduction sexuée. L'évolution n'est donc pas un projet élevé de la nature vers plus de progrès, c'est la loi du plus fort. Après les Galapagos, Fitzroy décide de prolonger le voyage qui devait initialement durer 2 ans et met le cap sur l'Australie en traversant le Pacifique. Le Beagle arrive à Sydney en janvier 1836. L'Australie est alors une colonie en pleine expansion. Comme beaucoup de bagnards y ont été envoyés, la population est plutôt rude et déterminée à se construire un nouveau pays. Et tant pis s'il faut acculer les aborigènes pour y parvenir. Encore une fois, Darwin est stupéfait de découvrir des humains si proches et si différents. Pour lui cependant, il n'y a qu'une seule espèce humaine, et ceux qui se serviront plus tard de ses écrits pour parler de race ont dévoyé ses propos. Mais il remarque que les plus forts nuisent aux plus faibles, exactement comme les animaux dans la nature. Et les plus forts ici, ce sont les colons qui menacent d'extinction les aborigènes. Les grandes vallées à l'intérieur des terres subjuguent aussi Darwin. Elles sont si hautes qu'il refuse de croire qu'elles ont été creusées par l'érosion en 5840 ans selon les comptes des théologiens. Pour lui, l'Australie devait être sous la mer en des temps très reculés et la puissance de l'eau a creusé ces gorges gigantesques. Darwin se trompe dans le cas de cette vallée, mais ses intuitions sont encore justes. Le niveau de la terre n'a jamais été fixe. Il va peaufiner sa théorie dans les îles Coco au printemps 1836. Cet atoll se trouve à l'ouest de la Nouvelle-Zélande. Les îles sont assez plates, entourées de barrières de corail. Darwin se met à les mesurer avec l'intuition encore géniale que le niveau du sol s'est affaissé, donnant à l'atoll sa forme caractéristique en cercle. Et encore une fois, il a raison. Un ancien volcan s'est en effet effondré en laissant derrière lui ces morceaux de terre plate qui composaient ses marges. Le corail lui donne aussi une idée. Il se compose d'embranchements qui partent dans tous les sens, comme un buisson. Et si l'évolution était à son image? Dans son carnet, il dessine des embranchements qui pourraient être la clé de la compréhension de l'évolution des espèces. Le Beagle remonte désormais l'Atlantique pour rejoindre l'Angleterre. Darwin retrouve sa mère patrie le 2 octobre 1836. Son expédition a duré presque 5 ans. Tous les naturalistes d'Angleterre saluent la qualité de ses travaux. Son père l'accueille avec fierté. Il accepte l'idée que son fils ne veuille plus être pasteur après un tel voyage et lui offre une belle maison, Down House, située au sud de Londres. Charles s'y installe avec sa femme Emma, qui est aussi sa cousine, qu'il vient juste d'épouser. Il y poursuit ses travaux de recherche au milieu de ses 10 enfants qu'il adore. Dans ses carnets, il note avec un brin de malice que la survie de l'espèce passe par la reproduction et il décrit ses propres mœurs amoureuses comme s'il était un animal. En 1851, Darwin a 49 ans et sa fille Anne, qui a seulement 10 ans, meurt d'une longue maladie. Darwin traverse alors une grande période de doute. Il n'est même plus sûr de croire en Dieu. Pendant plus de 20 ans, Darwin continue ses recherches chez lui. Il n'aime pas les mondanités et sort peu. En revanche, il fréquente de nombreuses sociétés savantes où il fait des communications. Il mûrit ses théories sans oser les publier. Il sait qu'elles portent en elles un changement de paradigme. Dieu ne serait plus l'auteur de la création. Au milieu des années 1850, Darwin reçoit un manuscrit chez lui. Un autre naturaliste de 15 ans, son cadet, Alfred Russel Wallace, est lui aussi en train de travailler sur la théorie de l'évolution. Leurs hypothèses sont très proches. Darwin se rend compte qu'il y a urgence, il doit publier son travail. Le 24 novembre 1859 paraît enfin son livre phare, L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie. Darwin a 50 ans. C'est presque 30 ans de recherche qui sont enfin accessibles. Le livre est plutôt bien accueilli par la communauté scientifique, mais le monde clérical se révolte. Des théologiens désinguent ses travaux pour remettre Dieu au centre de tout et l'humain au sommet de la création. Fitzroy est outré. C'est donc pour en arriver là qu'il avait emmené Darwin sur le Beagle ? Il a l'impression d'avoir nourri un serpent en son sein, selon sa propre expression. Pourtant, Darwin a été très prudent. Il ne dit rien d'offensant pour l'Église et ne parle même pas des êtres humains dans ce livre-là. Mais les faits sont là et on le comprend entre les lignes. L'humain est un animal qui a évolué comme les autres par la sélection naturelle et sexuelle. Chaque espèce qui s'adapte à son milieu transmet ses caractéristiques à sa descendance. Les mâles se battent souvent pour les femelles. Les plus forts et les plus beaux sont ceux qui ont le plus de succès reproductif. Les journaux caricaturent son travail. L'homme descend du singe et Darwin est représenté sous la forme d'un chimpanzé à visage humain avec sa barbe blanche. Il finit par en rire. Quand il meurt en 1882, la communauté scientifique anglaise souhaite immédiatement qu'il soit inhumé à Westminster Abbey, qui est à la fois une nécropole royale et nationale. Il y repose aux côtés d'Isaac Newton et plus récemment, du physicien Stephen Hawking. Depuis sa mort, les théories de Darwin continuent de cliver. Les créationnistes de toutes les religions continuent à réfuter ses découvertes. Les auteurs communistes le perçoivent comme un scientifique au service du capitalisme dont l'œuvre pourrait aller jusqu'à donner un fondement à l'eugénisme. Darwin s'est mis bien des idéologues sur le dos. Il dérange. La vérité, on la retrouve dans les sciences. Les recherches sur l'ADN ont permis de valider une bonne partie des intuitions de Darwin. L'évolution, avec ses nombreux embranchements, ressemble à un corail et nous avons un ancêtre très lointain commun avec les singes. Ses intuitions en géodynamique ont aussi été démontrées. Il avait compris ce qu'était la croûte terrestre et la tectonique des plaques sans pouvoir les nommer. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Charles Darwin. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Camille Bichler est chargée de production. Kelly Decroix est chargée de communication et Héloïse Bertil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé la nouvelle identité visuelle d'Au cœur de l'Histoire. À bientôt !